Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est le paddock RMC du lundi, le débrief de la troisième manche du championnat du monde au Japon à Suzuka sur un tracé chargé d'histoire. On va pas vous mentir, on va mettre les pieds dans le plat direct, c'était pas le Grand Prix le plus passionnant du début de saison. Mais malgré tout, il y a plein d'informations à en retirer. Déjà la victoire de Max Verstappen, c'est le retour du patron, c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les McLaren. Il a été encore monstrueux tout au long du week-end. On va ouvrir également le dossier de la stratégie des McLaren, parce qu'ils nous ont refait du McLaren, donc faut qu'on se penche dessus. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis on va revenir sur le week-end des rookies et de notre français Isaac Hadjar, qui a marqué ses premiers points en Formule 1. Lui aussi il sort d'un week-end parfait, ça fait plaisir après ses débuts mouvementés en Australie. Les ingénieurs sont là, cornaqués par notre team principal, Jean-Luc Roy. Salut mon Jean-Luc.
Ben, salut mon Nico. Cornaqué, c'est un vilain mot ça, non? Non, c'est gentil.
Oui. Ouais, c'est gentil, non? C'est un peu le patron, quoi, tu vois. T'es...
Ouais, voilà, mais ils sont bons, les petits gars, là, ils sont excellents.
Alex Caldi, Arnaud Valadonson, là, salut les gars.
Hello!
Salut à tous!
Salut Alex, salut Arnaud. Les deux A.
Les deux A, exactement. Je vous rappelle que, bien évidemment, le podcast est à partager, qu'on attend vos petites notes sur toutes les plateformes de téléchargement. 5 étoiles, c'est le mieux. Et donc, les gars, je vais vous demander, c'est la tradition depuis le début de saison dans le paddock. Combien d'étoiles pour ce Grand Prix du Japon? Bon là Jean-Luc.
Oh là, il me prend toujours à la gorge.
Bah oui, horrible. Je sais.
C'est quoi, c'est sur 5 ou 10 on met?
Sur 5. Sur 5, c'est comme les plateformes de téléchargement.
Oui. On fait... Écoute, je vais mettre 3,5. T'as tout dit un peu dans ton intro, mais je vais mettre 3,5. Ouais. À la fois serré comme pas possible, mais pas passionnant en fait. Ouais.
Il est toujours généreux, Jean-Luc. Il rajoute toujours
oui,
un point.
C'est ma nature. Oui. C'est ma nature.
Et vous les gars?
Bon, 3. Hein.
Moi je mets 2,5, pile poil au milieu. C'était bien la samedi, moyenne. C'était moins bien dimanche.
Bah voilà, oui, mais ça fait partie du Grand Prix.
Oui.
Allez, on rentre dans ce débrief du Grand Prix du Japon, troisième manche de la saison, les gars. Le point sur le classement, je vous le disais, la victoire de Max Verstappen qui a été phénoménale tout au long du week-end. Il s'impose devant Lando Norris et Oscar Piastri. Norris à 1 seconde 423, Piastri à 2 secondes 129 de Verstappen. Vous l'avez compris, ça a été ultra chaud. Et malgré tout, Verstappen, qui a probablement gagné sa course le samedi, on en reparlera, mais a réussi à tenir. Donc doublé de McLaren sur le podium derrière. Quatrième, Charles Leclerc qui se rassure un peu avec sa Ferrari, mais qui est quand même loin des trois premiers. George Russell, cinquième. Andrea Kimi Antonelli qui fait encore une super course, sixième. Lewis Hamilton qui a été plus en difficulté, septième au volant de la deuxième Ferrari. Isaac Hadjar, week-end monstrueux pour Isaac Hadjar qui prend 4 points sur ce Grand Prix du Japon, terminant huitième. Alexander Albon, neuvième. Et le petit point de la dixième place pour la Haas d'Oli Berman. Lui aussi, il a été très solide. Les autres infos, Yuki Tsunoda pour son premier Grand Prix chez Red Bull, douzième. Pierre Gasly, un peu en difficulté 13e. Liam Lawson qui est redescendu chez Racing Bulls, il a souffert lui aussi, 17e. Et Esteban Ocon 18e, une course à oublier pour Esteban. Le classement des pilotes, Lando Norris n'a plus qu'un petit point d'avance sur Verstappen. Oscar Piastri est 3e avec 49 points, il est à 13 points de son coéquipier Norris. Derrière Russell, Antonelli est là, 5e du classement. Et le premier pilote Ferrari, c'est Charles Leclerc, seulement 6e avec 20 points. Il est loin, Charles, à 42 points de Lando Norris. Au classement des constructeurs, superbe opération de McLaren avec cette deuxième et troisième place. 111 points pour McLaren devant Mercedes. 75 points, donc il y a déjà un vrai écart qui se crée au classement des constructeurs, même si bien évidemment rien n'est terminé. Voilà pour toutes les infos de ce Grand Prix du Japon. Jean-Luc, je le disais, c'était pas le Grand Prix le plus passionnant. Malgré tout, il y a plein de choses retirées. Il y a quand même la confirmation qu'on a un vrai phénomène en Formule 1, c'est Max Verstappen, qu'il arrive à faire de la magie avec cette Red Bull, qui n'était peut-être pas d'ailleurs catastrophique que ça ce week-end. Ça va peut-être mieux pour la Red Bull, mais Verstappen a été encore le seul à pouvoir rivaliser avec les McLaren.
Alors, Monico, on commence par le négatif. Bah, évidemment, les 6 premiers pilotes de la grille terminent dans cet ordre. Bon, voilà, ça, c'est fait. Ouais. Donc, effectivement...
Il n'y a même aucun changement par rapport au top 10. Hein.
Oui.
On a les mêmes 10.
Ah, mais si, il y a la version Hamilton-Hadjar. Hamilton ouais.
Mais je veux dire, les mêmes 10 sont restés dans les 10.
Ah, pardon, d'accord, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, et puis les 20 pilotes terminent, si on va par là aussi. Bon,
alors
on
ne
peut
Fernando.
Pas, on peut pas. Ouais. Bon, bah, même Stroll est là.
C'est bien pour un rookie.
Bon, donc c'est pas le bon côté, c'est pas le plus passionnant. Maintenant, vous me voyez venir, comme toujours, je vais essayer de vous tirer les marrons du feu. Bah, on a quand même 3 monoplaces en 2 secondes, 1. C'est quand même pas beaucoup. Et ça a été le cas pendant quasiment tout le Grand Prix. C'est-à-dire que Verstappen, on va pas anticiper toute l'analyse dont nous sommes capables, mais il a toujours maintenu Norris à une seconde pour pas qu'il rentre dans la zone de DRS. Et on voyait bien que Piastri piaffait derrière. On va revenir aussi sur la non-stratégie de McLaren et les non-choix de McLaren. Donc, ce qui est attiré, alors, je pense que sincèrement, pour connaître le niveau de la Red Bull, vous me voyez tous venir, faudrait l'affiler déjà, par exemple, à Norris et Piastri pour avoir une petite idée de ce qu'ils font sur un même circuit, au même moment.
Ah, mais ça,
voiture.
On peut pas. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas.
Non, mais, alors, on l'a filé à Tsunoda. Alors, je le sortirai un peu de l'eau, on va en revenir un peu plus tard. C'est le point positif aussi, parce que lors des essais libres, notamment la première séance, vous l'avez suivi comme moi, il était proche. Après, il n'a pas été trop loin. Il s'est un petit peu raté en qualif, mais. Il était à 5 dixièmes en Q2 quand il est sorti de la Q2. C'est pas honteux par rapport à ce qu'on a connu il y a peu de temps. Moi, je le sors de l'eau et je pense que, comme il a beaucoup roulé, ce qu'il a dit, Yuki, je pense qu'il va être mieux pour les 2 prochains Grands Prix qui s'enchaînent et qu'il connaît, où il avait bien roulé. Donc voilà, les leçons de l'histoire, c'est surtout qu'on assiste quand même au parcours d'un pilote exceptionnel en mesure, et qui l'eût cru, peut-être de se battre pour le titre jusqu'au bout avec les McLaren. Hein. Un point d'écart, c'est rien du tout. On va voir. Bon, ce Grand Prix n'était pas passionnant de bout en bout, mais j'espère que les 2 qui vont venir vont l'être.
Justement, j'ai une vision.
64e victoire en carrière pour Max Verstappen.
J'ai une vision. Oula. Max Verstappen sera champion du monde des pilotes. J'ai une vision. Je ne vois pas. Avec ce qui va se passer chez McLaren, que la Red Bull va probablement, amener des améliorations très rapidement, et qu'il est tellement fort. Je me dis, il va taper les 2 autres de McLaren. Et on le voit déjà.
Au-delà même de taper les 2 de McLaren, je pense qu'il va surtout taper McLaren tout court. Parce
et que les McLaren ne vont pas se mettre d'accord, ils vont se partager les points, un coup P1, P2, P3, et que Max sera toujours régulier.
Je suis entièrement d'accord sur le fait que, victoire de Verstappen immense, et je le dis moi, je dis depuis Grand Prix du Brésil, pour moi, c'est le meilleur pilote du monde, tellement il est impressionnant d'efficacité et de perfection.
La qualif qu'il fait samedi, c'est monstrueux.
C'est d'un autre monde.
Cette pole position, elle restera aussi d'une certaine manière, je pense.
On peut évoquer
l'une des plus belles de l'histoire de la Formule 1 dans le contexte aussi et dans l'efficacité monstre qu'il a. Mais la passivité de McLaren, je suis désolé, la victoire de Verstappen, elle est presque normalement, elle devait pas arriver presque tellement McLaren joue à 2-1 vis-à-vis d'un pilote. Donc, je rajoute aussi un truc sur ce que tu as dit, c'est que Verstappen, au-delà du fait qu'il est fort et au-delà que McLaren que Red Bull va apporter des améliorations, ne pas oublier le Grand Prix d'Espagne où il y aura l'introduction normalement, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, l'introduction des restrictions des règles sur la flexibilité de l'aileron avant. Et Red Bull mise sur le fait que cette restriction va jouer grandement sur les performances de McLaren. C'est pour ça qu'on dit depuis le début de la saison, oui, il faut que McLaren maximise ses points et optimise tout ce qui est possible de gagner et de prendre le plus de points possible dans le sac. Parce que quand on va arriver au Grand Prix d'Espagne, il y aura une énorme inconnue. Et Red Bull estime qu'eux, ils seront de retour, on va dire ça ainsi, dans l'équivalence de performance avec McLaren à partir du Grand Prix d'Espagne. C'est pour ça que McLaren, je pense qu'ils sont dans une... Tu ressors de ce Grand Prix, t'es pas content du tout parce que tu sais que t'as manqué une énorme occasion et que t'as manqué une énorme occasion de prendre des points aussi sur Verstappen. Et je rajoute un truc, je pense que aussi McLaren n'aide toujours pas ses pilotes par rapport à Verstappen pour être parfait pour gagner contre Verstappen. McLaren ne l'est pas. Et McLaren, visiblement, n'a pas appris de ses erreurs et c'est ça qui est très dommageable.
On va les écouter tout à l'heure, les pilotes McLaren en plus, parce que bien évidemment, on les a chatouillés sur cette stratégie. Ouais. Tiens, écoutons le vainqueur, Max Verstappen, au micro de nos collègues de Canal+.
Honestly, I didn't really know what to expect.
Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre.
The weather today, like the colder temperatures, helped us a bit to not.
Pour être honnête, je pense que les températures plus basses aujourd'hui nous ont aidé à ne pas surchauffer les pneus.
Look after the tires in the best way possible with the balance.
Quand j'ai essayé de faire ma course, j'ai protégé mes pneus du mieux possible avec l'équilibre de la voiture, et ça a plutôt bien fonctionné. Ils étaient rapides. Ils insistaient dans ma zone DRS, mais sur ce circuit, c'est tellement dur de se rapprocher et de se suivre. Et partir en pole position était déterminant. Il y a eu un moment tendu avec Lando à la sortie des stands quand il est allé dans l'herbe. Nous avons eu une sortie un peu houleuse, il faut que je regarde, mais nous étions proches à la sortie des stands et j'étais devant lui.
Voilà Max Verstappen. À ce moment-là, sur cette fameuse sortie où... Lando Norris mange.
C'est un peu le moment frisson du Grand Prix, du dimanche. Arnaud, faut que tu nous racontes ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que, et c'est là peut-être le gros problème de McLaren, c'est sur cette stratégie sur le premier arrêt au stand. On arrête Piastri un tour avant, et au moment d'arrêter Norris pour peut-être essayer de tenter un undercut, Verstappen s'arrête et Norris s'arrête juste derrière. Meilleur arrêt chez McLaren, et en fait, alors Verstappen ressort un chouïa devant. Sauf que Norris réaccélère.
Il est devant.
Oui, il est devant Verstappen.
Il a un demi-museau, mais il est devant.
Norris réaccélère. Là, chez Red Bull, on pense qu'il a désactivé le pit limiter beaucoup trop tôt. Et en fait, on se retrouve dans une sortie des stands un peu rétrécie. Et Verstappen le fait de manière subtile, mais tellement intelligente, parce qu'il ne change pas tellement sa ligne, sauf que ça pousse Piastri, Norris à droite. Et il va manger l'herbe. D'ailleurs, il y aura cette belle phrase dans la cool room où Verstappen dit à Norris que tu avais la tondeuse la plus chère du moment. Et voilà, et c'est encore un moment où Verstappen rappelle à Norris qui c'est le patron.
Ouais, clairement. Et Jean-Luc, vas-y.
Non, juste je réagis sur, effectivement, très belle description d'Arnaud, j'en ai les larmes aux yeux. Non, mais en fait, il était sur la ligne. Il faut quand même rappeler deux principes de base de la Formule 1. Il n'a jamais été à son niveau, pas loin, mais il était un demi-museau derrière, on va dire 30 cm si vous voulez. Et puis, il était sur la ligne. Et celui qui quitte le stand, normalement, doit laisser le pas à celui qui est déjà lancé, on est bien d'accord. Donc là, si tu veux, voilà. Alors c'est bien, ça nous a fait un petit frisson à tous et on s'est dit, moi j'ai surtout eu peur quand même malgré tout qu'avec deux roues dans l'herbe, ils se mettent à l'équerre et ils traversent la piste, ça peut arriver. Quand on voit quasiment 1000 chevaux avec le total dans ces conditions-là, il est bon dans ces conditions-là. Il peut faire du rallycross après, Norris. Il va être excellent.
Jean-Luc, je voulais t'entendre sur un truc. On parlait de ce début de saison-là et du rapport de force qu'il y avait avant de démarrer la saison entre McLaren et les autres. Et on disait que Red Bull était nettement en dessous. Voir Verstappen à un seul point de Norris, là, maintenant, c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il arrive à faire, la façon dont il arrive à bonifier sa monoplace. Et puis aussi, cette empreinte psychologique qu'il laisse sur tout le monde, là, parce que ils savent tous que la Red Bull, elle est un peu moins bien et que normalement, il est censé être derrière. Mais le mec ne lâche rien. Et il est en train vraiment de marquer ses adversaires là au fer rouge pour la suite de la saison.
Bah écoute, c'est ça l'espoir, mon Nico, comme tu le résumes. Parce que sinon, là, on s'ennuierait gravement, comme quand une équipe domine outrageusement. Je nous revois, il y a un an, avec les Red Bull qui dominaient.
Dépressifs,
on est d'accord,
tous.
Et on s'était dit, ça y est, c'est parti. Et pour les raisons évoquées aussi par Alex, effectivement, ces changements de règlement et de mesures, enfin, c'est toujours... On est vraiment dans des notions difficiles à interpréter pour le commun des mortels, mais on comprend très bien ce qui se passe. On est aux limites du règlement et même un peu au-delà, mais pas vu, pas pris. C'est la règle dans tous les domaines et particulièrement en Formule 1. Donc, oui, pour reprendre ta question, Nico, heureusement qu'il est là, Verstappen. Imaginez qu'il ne soit pas là. Et encore une fois, Russell, et on en parlera un peu plus tard, fait un boulot remarquable. Il est là, toujours, mais il est là, un poil derrière. Il n'a pas les moyens de venir chercher. Moi, je pense que la Red Bull, le niveau de la Red Bull, c'est toujours quatrième monoplace. J'ai pas changé d'explication depuis la mi-saison dernière, parce que clairement devant il y a les McLaren, les Mercedes sont très 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 bon niveau, un tout petit peu derrière mais pas beaucoup, et je pense que les Ferrari aussi, d'ailleurs Charles l'a démontré aussi, et Lewis quand il a remporté le sprint, ils sont pas très loin derrière, ils sont pas très loin des Mercedes, et la Red Bull est derrière indubitablement. C'est vraiment l'effet Verstappen qui fait la différence, et encore une fois il a signé, il a une pole à la Senna. Alex évoquait tout à l'heure le Grand Prix du Brésil, oui, mais c'est un et il faut s'émerveiller parce qu'on le vit en direct, les gars, il faut se réjouir, tu vois, après tout est sublimé avec le recul et on ne garde que des beaux souvenirs, mais là il fait un boulot extraordinaire, ce gars-là, c'est vraiment c'est un extraterrestre.
Ouais, il est vraiment au-dessus du lot là. Et cette victoire, elle marque les esprits. Bon, ouvrons le dossier McLaren, les amis. Je sais, vous trépignez de la patience là depuis le début du podcast. Donc, faut qu'on parle, Alex, de ce qui s'est passé pendant cette course, parce que Norris et Piastri sont globalement la course a fait 53 tours pendant 50 tours, ils sont à 2 secondes de Verstappen. J'exagère un peu, je caricature, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et McLaren n'a rien tenté, en fait. Elle n'a rien tenté pour essayer de venir perturber et d'aller chatouiller Verstappen. Toi, tu disais que c'était pas une faute professionnelle, mais en tout cas, manque d'ambition, peut-être.
Bah, c'est un manque d'ambition, et surtout, ça montre que McLaren a toujours peur de Verstappen. C'est-à-dire qu'en 2025, après, même si tu as la meilleure voiture, tu as toujours peur d'un seul et même pilote. Oui, c'est peut-être le meilleur pilote du monde, ça l'est certainement. C'est le meilleur pilote sur la grille à l'heure actuelle. Il a sorti une pole position absolument fantastique. Il partait en pole position, mais tu peux le battre. Il était franchement, il était très prenable, Max Verstappen, sur le rythme de course. Sur les qualifications, c'est notre histoire, mais sur le rythme de course, quand tu regardes la stratégie de McLaren, ça s'est arrêté au 20e tour pour Piastri, si je ne me trompe pas. Derrière, le tour suivant, on a Norris.
21e pour moi, mais bon, t'es pas loin.
Ouais.
Et 22 pour les autres.
Et Norris s'arrête également, alors qu'il est derrière Verstappen. Il aurait pu continuer à faire un overcut. Au moins, ils auraient tenté quelque chose. Là, on s'est beaucoup trop aligné sur Verstappen. Et là, on arrive à une situation où McLaren n'a strictement rien fait. Les stratégistes ont manqué d'ambition, ont été extrêmement passifs vis-à-vis de la situation. Et encore une fois, ça prouve justement que McLaren, à l'heure actuelle, est peut-être prête pour devenir champion de constructeur comme ils ont fait l'an dernier, mais ils ne sont pas prêts pour devenir champion de pilote. En rien, c'est possible. Parce que, en plus de ça, tu ne choisis pas entre un des deux pilotes. Tu ne demandes même pas à Lando Norris, OK, est-ce que c'est possible de laisser passer Oscar pour voir qu'est-ce qui peut se passer. Au pire, il refuse.
Piastri a tenté à la radio.
Ouais, mais en plus, au pire.
Mais il n'a pas tenté en course, c'est pour ça, moi, le problème. C'est qu'au final, il n'a pas montré, je trouve, suffisamment les dents et s'être montré suffisamment dans le rétro de Norris pour dire attendez,
il
faut que je.
Mais excusez-moi, mais.
Il était dans le DRS.
Non, mais il était dans le DRS et du
coup, il n'a pas utilisé.
McLaren, c'est une équipe de Formule 1 quand même. Je veux dire, c'est pas des peintes.
Mais moi, je trouve que Norris n'a pas assez montré les dents.
Il est revenu
à un moment à 7 dixièmes et tu dis aucun moment il s'est décalé pour faire sortir, regardez je vais plus vite et je pense
parce que aussi...
chez une écurie frileuse ça les a encouragés
bien sûr.
À pas bouger. C'est vrai que Norris a le même rythme que Hamilton quand même, il avait un très bon rythme. Mais là où je vous rejoins, même si Andrea Stella s'est défendu sur les arrêts, mais à un moment donné, il a dit oui, on a voulu arrêter Piastri parce qu'il y avait Russell à couvrir et que voilà, après, mais à un moment donné, tu es quand même à deux McLaren contre une Red Bull. Tu as un avantage normalement en gestion de course pour dicter ton ton. Et là, en fait, c'est Red Bull. C'est Red Bull qui a fait sa loi et qui a dit
Verstappen a fait sa loi parce que Red Bull, je pense que surtout qu'on le voit en la radio, l'ingénieur de Verstappen, il dit ils sont en train de s'embrouiller, c'est bon pour nous, ça fait.
Il passe comme ça, c'est énorme. Jean-Luc, vas-y.
Il a pas dit allez con parce qu'il prenait 10 000 dollars, mais c'était presque ça. Et puis je vais vous dire, là, pour résumer, être cruel, attention, je touche pas à Ross Brown. Je sais qu'il a Ross, pardon. Le lapsus est révélateur. Zach Brown, je sais qu'il a des admirateurs, je n'y touche pas, mais je vais parler d'Andrea Stella. Donc, on tente, ce qui est une aberration, on tente l'undercut, ce que soulignait Alex à l'instant, avec Piastri qui est troisième, on tente l'undercut au 21e tour sur son équipier, en fait. Mais c'est une vraie connerie. L'undercut, ça se tente sur le leader quand t'es deuxième. Donc, c'est Norris qu'il fallait arrêter avant.
Oui,
là, il y avait une chance, comme vous dites.
Surtout qu'il y a cette fameuse règle, gentleman argument, bien sûr, c'est celui qui est devant dans l'écurie sur la place de la très position qui a l'avantage.
Et qui s'arrête en premier. On se retrouve en Hongrie, vous vous rappelez, l'an dernier,
bien sûr.
Quand ils sont pris les pieds dans le tapis, ils ont fait l'undercut sur l'équipier. Ils refont la même. Donc, ils n'apprennent même pas de leurs erreurs. Ça, c'est inqualifiable.
Et alors, Stella dit, oui, alors on a fait ça parce qu'au cas où il y aura une safety car, on aurait tout perdu.
T'as raison, bien sûr. Il y a toujours une raison.
Il fallait effectivement, je pense, arrêter Norris en premier, tenter quelque chose et forcer Red Bull à réagir. On sait que, et c'est comme dans la vie, il vaut mieux agir que réagir.
Ouais. Bah oui, non mais je vais te dire, simplement il fallait switcher les deux pilotes, encore une fois, et parce que Piastri, vous l'avez vu comme moi, il était plus rapide, pas de beaucoup, et lui aussi il était dans les turbulences, et lui aussi il avait les pneus avant qui surchauffaient, on sait que c'est très mauvais, avec son équipier devant, donc il était un poil plus rapide, mais c'est cette différence qui aurait pu, il fallait le switcher avant l'arrêt, le laisser revenir, faire l'undercut, et il y avait une chance que ça marche, voilà.
C'est la question que j'allais poser du coup, et je vais vous la poser, Alex et Arnaud. Est-ce que switcher, swapper les positions là entre Norris et Piastri, Piastri à un moment, ce fameux moment où Piastri demande à la radio, dit franchement j'ai un bon rythme, je pense que je peux aller chercher Max, il dit ça à son ingénieur, il met la pression, on sent que c'est vrai qu'il est pas mal, hein, même si Norris fait une belle course, il fait une propre, est-ce que ça aurait pu être une solution ?
Ça aurait clairement pu être une solution, et ça devait être la solution, encore une fois je le répète, mais tu demandes à l'aide de Norris, au pire il refuse, ça fait un conflit. Mais au moins, la question, elle est posée. Et au moins, il y a aussi une jurisprudence vis-à-vis de l'avenir. Et je pense aussi que McLaren se serait également protégé d'une potentielle situation de potentiel conflit à l'avenir. Parce que je pense que si tu refais cette même situation, on va dire, dans deux Grands Prix, dans trois, quatre Grands Prix, bah là, ça reviendra à la même situation parce que McLaren ne choisira toujours pas entre un des deux pilotes. De toute façon, ouais. ça revient même à la question.
C'est la limite de leur stratégie du début de saison de ne pas choisir.
Parce que je pensais sincèrement que McLaren allait se dire bon, c'est les Norris qui joue le titre cette saison, il faut partir sur ça. Parce que Piastri manque d'expérience et c'est vrai qu'il a parfois des manques d'expérience et des manques de jugement qui peuvent l'amener à pouvoir avoir un rôle de potentiel champion du monde dès cette saison. L'avenir nous le dira, il a clairement le potentiel. Mais Lando Norris, il s'est quand même battu avec Max Verstappen l'an dernier, ce que Piastri n'a pas fait. Ce qui est un fait, justement.
Oui, donc, il était encore un peu tendre.
Bien sûr. Et Lando Norris, c'est la meilleure formation pour se battre pour le titre mondial. Et aujourd'hui, c'est plutôt McLaren qui a encore une fois manqué d'aide envers Lando Norris pour potentiellement aller chercher déjà d'une Max Verstappen et montrer que McLaren veut ce titre mondial. Et c'est ça, en fait, moi, ce qui m'énerve aujourd'hui avec McLaren, c'est qu'ils n'aident toujours pas leur pilote. Et que pour battre Max Verstappen, il faut être parfait. Et McLaren est très loin d'être parfait. Et Lando Norris n'est pas parfait. Pourquoi ? À cause de McLaren.
Je pense qu'ils attendaient la faute.
Oui, c'est ça, ils attendaient la faute. Mais bon, attendre la faute de Verstappen, c'est bon.
Ils sont pas
c'est
déçus. Un
peu. Ouais, je pense qu'il vaut mieux jouer à l'euro million, t'as peut-être plus de chances de gagner.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai joué sur la dernière cagnotte à 213 millions, et j'ai pas gagné, les gars. Sinon, j'aurais peut-être racheté une écurie, d'ailleurs. 213 millions, je peux racheter une écurie ou pas ? Je sais pas.
À la limite,
tu
m'en
vois. Tu veux mettre Paul Orsi sur un aileron ?
Je mets pas Paul Orsi. Oui, là, vous avez Paul Orsi sur la monoplace.
Sur l'aileron de Douane.
C'est en Douane.
Tu rachetais Enstone. Et puis
je t'aurais mis aux manettes, mon Jean-Luc, t'inquiète pas, que ça aurait été différent.
Avec Briator, tu sais, on ferait du mal.
Écoutons cette petite séquence là. C'est sur Canal+. C'est Margot Laffitte qui est dans la zone d'interview, notre consoeur de Canal, qui pose des questions à Norris puis à Piastri. Vous allez entendre les deux pilotes à la suite. En gros, elle va leur poser la question si ce swapping des positions aurait pu changer les choses. Vous allez voir que les deux, ils ont pas le même regard.
Do you think maybe he could have at one point overtaken and
pensez-vous que Costa aurait pu vous doubler et aller chercher Max?
Non.
Oh non.
I felt like I could.
Là, c'est Piastri qui parle du coup. Je crois que j'aurais pu moi aller le chercher. Ouais, j'étais à l'aise. Je sentais que j'avais du rythme, surtout dans la deuxième partie de la course. On est libre de se battre avec Lando. C'était le cas aujourd'hui et c'est comme ça qu'on doit faire la course. Après, Piastri est revenu un peu à froid sur, pas sur ses déclarations, mais en gros, il dit qu'il a compris le choix de son écurie de protéger un peu.
Oui,
mais tu sens Jean-Luc, tu sens en fait le problème qu'on a, c'est exactement le même souci que la saison dernière, c'est que t'as l'impression qu'il y a un truc qui couve là et que ça va exploser à un moment. Tu sens que cette gestion-là, là, t'es sur un fil, là, t'as deux funambules sur un fil. Pour l'instant, ça tient, mais au bout d'un moment, ça va péter. C'est quand même course de la saison, ça peut pas tenir comme ça.
Non, et puis je répète que Oscar est un killer, ce que n'est pas Lando. Il a d'autres qualités, mais c'est pas un killer. Et puis, vous savez, j'aime bien les temps en course. On y arrive maintenant. Oscar, au 53e tour, donc à la fin, il roule en 1:31.039, c'est son meilleur chrono, alors que Lando, au 51e tour, ne fait que, et j'insiste, 1:31.116, donc il est quasiment un dixième moins rapide, et Verstappen, lui aussi, au 52e tour, donc il se lâche un peu à la fin, 1:31.041. Ça démontre, par les chiffres, qu'il y en avait un seul qui était capable d'aller chercher Verstappen, c'est Piastri, c'est tout. Je suis désolé d'insister, je ne dis pas qu'il y serait parvenu, mais je dis, il avait les moyens de le faire. Alors que Lando, il a eu toute la course pour essayer d'y parvenir, il n'a pas réussi. Donc il va falloir changer un petit peu les choses. Alors je comprends qu'on veuille aussi privilégier Lando Norris, pour les raisons que tu évoquais, mon Nico. C'est-à-dire, c'était lui le challenger naturel l'an dernier, il l'a démontré, il a fait moins d'erreurs, Piastri était un peu tendre. Mais cette année, c'est 2025, hein. Faut oublier le reste. Et on en reparlera, mais rapidement, c'est certain. Vous allez voir que peut-être la meilleure chance de décrocher le titre, pour moi, c'est Piastri, je le redis.
Oui, peut-être que l'élément clé sera à un moment donné, si Piastri est devant Norris au classement des pilotes.
et voilà.
Ça changera
donc,
peut-être quelque chose.
Il faut qu'en qualif, il soit devant. C'est tout. La
ouais,
clé, elle est là.
C'est sûr. Mais après, tu sens que, en fait, tu sens que McLaren n'est pas proactif. C'est ça un peu là. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps dans la réaction, qu'ils subissent un petit peu, alors que leur voiture est de très très loin. C'est quand même à toi normalement de diriger la course et de montrer que t'es le patron. Et là, tu les sens encore. Psychologiquement assez instable, quoi. C'est ça qui est qui
il a montré en Chine, hein, Piastri. Là, il fait la pole et il reste devant. Bah voilà.
Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Le week-end fabuleux d'Isaac Hadjar, les amis. On va ouvrir après à la situation des rookies qui ont été très bons ce week-end. Isaac Hadjar qui a sorti une qualif sublime, Alex. Ouais. Il fallait qu'il soit récompensé par une course où il allait chercher ses premiers points, où ça marquait aussi le fait qu'il était rapide et qu'il était rapide depuis le début de la saison. C'est fait. Il a été impeccable, Isaac Hadjar.
Mais c'est surtout que pour moi, je pense que c'est le meilleur rookie de ce début de saison. Hein. Il y en a beaucoup qui me font une comparaison avec Antonelli, mais Isaac Hadjar, il n'a pas 15 000 km dans une Formule 1 en essai privé. Et Isaac Hadjar, il arrive, il est le premier pilote non affilié, enfin affilié Red Bull au classement du championnat du monde pilote, donc hors Max Verstappen. C'est lui quand même qui est premier. Depuis sa mésaventure en Australie, c'est septième en qualification en Chine devant une Mercedes, donc celle d'Antonelli. Qualifié septième donc au Japon devant une Ferrari ensuite derrière. Il a obtenu ses premiers points donc du coup durant ce Grand Prix du Japon. Et puis surtout, il affiche une sérénité dans le fait que ce soit sa première saison du côté de chez Red Bull. Et surtout, dans l'univers Red Bull en Formule 1 bien sûr. Et puis surtout, il arrive à subir et à prendre la pression de Red Bull et en fait finalement ne pas subir ça justement. Et c'est ça aussi qui est très fort par rapport à Isaac Hadjar, c'est le fait que peu importe les événements qu'il y a autour de lui, il restera toujours fort. Il arrivera même à se relever. Le cas de l'Australie, faut quand même se relever de ce qui s'est passé avec l'accident, le digérer dans le tour de formation. Et ça en fait, moi c'est ça qui m'impressionne avec Isaac Hadjar, c'est qu'on voyait ce qu'il pouvait faire en Formule 2 et même dans les formules de promotion auparavant, et là en Formule 1 ce n'est pas en fait étonnant tout ce qui se passe sur Isaac Hadjar. C'est juste ce qui est fabuleux, c'est qu'il arrive à tenir sous cette pression et à rester totalement passible peu importe les situations. Il a un nouveau coéquipier, la M. Lawson, bon c'est pas grave. Yuki Tsunoda, il a fait du très bon jeu, des très bons jeux contre Yuki Tsunoda dès ses premiers instants en Formule 1. Donc c'est ça en fait qui m'impressionne et qui va même m'emmener sur la suite de la saison en me disant Isaac Hadjar peut marquer vraiment des points à chaque Grand Prix.
Est-ce qu'il va rester dans la Racing Bulls?
Ah oui, quand même. Écoutons-le, tiens. Non, Isaac Hadjar.
Peut-être que les trois derniers Grands Prix à voir, mais bon, oui. Il taffe tout le monde. J'espère qu'il va rester dans la Racing Bulls, qu'on le laisse tranquille. Qu'il apprenne être un pilote
grandisse,
de Formule 1.
Faut qu'il grandisse.
Mais bon, tu sais, c'est Red Bull. Hein.
Vous allez l'écouter. Alors, il était complètement rincé après sa course. Là, il le disait. Toujours super honnête. Isaac est très frais en interview et ça, c'est cool.
Ouais, la P8, elle est vraiment au mérite. Et c'est presque un week-end parfait, en fait. Hein. On pouvait pas faire mieux. Ce matin, on savait que Lewis, il allait passer dans tous les cas. On roulait pas contre lui. Donc, on savait que c'était Albon avec qui on allait se battre et on a fait une course parfaite. Là, je suis surtout très fatigué. Le rythme, je pense que la moyenne de vitesse, elle était juste énorme. Il n'y avait aucune dégradation, ça allait de plus en plus vite à tous les tours. Et sur une piste pareille, c'est très très fatigant. Ma nuque, elle est juste détruite.
Beaucoup plus qu'en Chine ?
Rien à voir.
Bravo, en tout cas, on est super contents pour vous.
Merci beaucoup.
Ouais, il est toujours super, super frais, super marrant.
À Suzuka, Hadjar, ça déménage les cervicales. Hein. C'est...
Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a raison. C'est vrai que nous, des fois, en tant que spectateurs devant la télé, tu dis que c'était le dimanche, c'était une procession. Il s'est pas passé énormément de choses. Mais par contre, le rythme des pilotes, et surtout, il y en a très peu qui ont fait des erreurs. Ça, pour le coup, faut le souligner aussi.
Puis
c'est peut-être pas spectaculaire.
Il nous a fait un bon dépassement, il me semble, sur Sainz en plus. Il fait premier virage sur l'extérieur.
D'ailleurs, il a même dit bon, je me suis fait un petit peu peur. Mais Jean-Luc, il y a quand même un truc avec Hadjar. On en a parlé après la Chine. On attendait tous de voir sa réaction par rapport à cette énorme boulette en Australie. On le disait, c'est un truc qui va le marquer et c'est un truc qui peut vraiment marquer sa carrière. Et finalement, tu as l'impression qu'après la troisième course, limite, il a réussi à rayer ce fait, quoi, fait de course.
Oublié,
c'est assez fort. Ouais, tu vois.
Écoute, tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ça va faire partie de son passé. On l'avait dit juste après. Hein. Bon, il l'a mis loin derrière maintenant, mais il sait qu'il est faillible, comme tout le monde. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, effectivement, c'est sa solidité. Alors, là aussi, on a compris également avec lui, je le dis en rigolant, hein, c'est pas du tout méchant, qu'il y avait une dramaturgie, parce que je sais pas ce qu'il avait avec son baquet en Q1 et même
ah
en
oui,
je me dis la ceinture sécurité. Fois,
je pense juste qu'il n'y aura pas voilà. d'enfant très tôt, quoi. C'est plus simple.
Voilà. À chaque fois, il y a un truc, bon, mais c'est rigolo, quoi. Et il s'en sort, bon, mais c'est super. On a compris que le garçon est débordant d'énergie. De toute façon, il y a toujours un truc qui va pas, mais c'est pas grave, parce qu'il le surmonte et puis il fait le boulot. Et là, son analyse est très très saine. Il savait bien que par rapport à Lewis en course à la Ferrari, bon, il jouait pas dans la même cour. En revanche, l'ennemi, l'adversaire, c'était vraiment Albon. Et je rajouterais Berman, qui était pas loin derrière non plus. Mmh. Et là, il a fait le boulot. Alors, attention, je rappelle aussi, 52e tour, Isaac, il est à bloc, hein, 1:31.317. Albon derrière qui termine à 3 grosses secondes, 1:31.125. Il lui colle 2 dixièmes. Ça veut dire qu'il fallait rien lâcher, hein, pour être clair.
Tu peux citer les temps autour des Ferrari parce que c'est intéressant, j'ai le même tableau sous les yeux.
Et ben moi je l'ai, ben c'est si. Ben, tu sais, c'est vraiment, en course, il n'y a pas meilleur, hein, y a pas meilleur baromètre. Et ben seulement, j'allais dire seulement, pour Leclerc, 1:31.469. Donc on est quand même loin derrière, on est à 3-4 dixièmes des meilleurs. Hein. Et quant à Lewis, 1:31.406. Ça veut dire que
Isaac
la Ferrari,
elle
ne
valait
pas mieux qu'une 31.4. Ouais. Voilà.
Ah, Isaac donc, a mis un dixième au Ferrari sur ce meilleur temps.
La
vitesse est incroyable. Tu parlais solidité et vitesse, et tout le monde le loue. Il est très rapide, Isaac.
Très solide. Ouais. Très solide.
Écoute, il nous fait plaisir. On est toujours très cocorico. Là, c'était un peu plus dur pour Esteban, évidemment.
Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et même pour Pierre,
non mais mine de rien il y a quand même un truc les gars, c'est que il y a aussi on savait qu'il était rapide depuis la Chine, même en Australie, hein, parce qu'avant la course il est ultra performant, et il y a aussi cette barrière mentale à faire sauter des premiers points marqués en Formule 1. C'est quand même un truc important pour te rassurer, pour te donner de la confiance. Ça y est, il l'a fait, il l'a prouvé à tout le monde.
Le
aussi
le baromètre Nick de Vries.
Ouais, laissez-le tranquille. Hey, oh, oh. Laissez-le tranquille. Laissez-le formuler tranquille. Oh, hey.
Non mais c'est quand même important ça, Arnaud, de faire sauter ça dès la troisième course, de montrer que t'es capable de prendre des points, de, comme dit Alex et Jean-Luc, de montrer que t'es capable de t'adapter aussi à l'environnement Red Bull et à tout ce qui peut se passer autour. Voilà, c'est loin d'être anodin, et ça lance définitivement sa saison, hein.
Déjà, pour se remettre aussi vite de l'Australie, on se dit ah, c'est quand même ton premier Grand Prix de ta vie en Formule 1, et ça se passe comme ça, et le garçon est solide, et j'ai l'impression que je vais le mettre dans la catégorie de ces pilotes qui ne nous déçoit jamais. Parce qu'il délivre.
Croisons
il
les
est
doigts.
Là.
Croisons les
croisons
doigts.
Les doigts. Et voilà, énorme respect. Et j'ai hâte de voir la suite avec l'enchaînement à Bahreïn et en Arabie Saoudite, savoir s'il peut continuer. S'il nous refait encore une Q3, on signe de suite parce que voilà, la vitesse est là et ça va être des circuits, pourquoi pas, où il peut encore démontrer de qualité et performer. Et franchement, on est évidemment conquis. En plus, sa fraîcheur, sa personnalité, on adore.
Et surtout, la comparaison avec la M-Lesson. Hein, parce que la M-Lesson après, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que la M-Lesson, il n'a pas fait d'essai hivernaux dans la voiture. Il a découvert la voiture à Suzuka, ce qui n'est pas simple.
Là, il est cramé moralement.
Il est cramé. Mais je suis curieux de savoir la comparaison qu'il va y avoir durant l'entièreté de la saison d'un pilote qui a été chez Red Bull et qui avait l'an dernier, pour Red Bull, le potentiel finalement de rater d'aller chez Red Bull.
Alex, il faut surtout pas mettre Isaac chez Red Bull. Surtout pas. Oh. Il est bien là.
Helmut, si tu nous écoutes.
Et voilà, Helmut, écoute bien. Non, il est très bien. Il est solide. Il continue. Il va progresser. Il va acquérir de l'expérience et il sera à point. Voilà, mais faut pas le cramer. Surtout pas le cramer.
Non, mais je vois pas pourquoi vous, Helmut, si tu nous écoutes. Mais bien sûr qu'il nous écoute. Vous avez un doute, vous. Bah attends, mais moi j'en doute pas du tout.
On l'a tapé dans
Helmut qui a bien dit, qui s'est farci un peu McLaren en disant qu'ils avaient fait n'importe quoi.
Oui,
spécial.
Et Horner aussi, ça a été excellent.
Il se farcit tout le monde de toute manière là depuis le début de saison festival. Non mais bien évidemment, après je le précise parce que là on est dans la culture de l'instant. Nous aussi on débriefe les courses. Isaac Hadjar n'était pas un tocard après l'Australie et c'est pas le meilleur pilote du monde maintenant. Oui. Voilà, on va pas le brûler. Il faut pas l'enflammer.
J'ai entendu des gens qui l'ont brûlé. Jean-Luc, je pense pas. Hein.
Oh non,
non mais après l'Australie, voilà, c'est oui,
des gens.
C'est quoi
le terme
footix pour la F1
Formule X, je crois.
Formule X
ou tocard.
Non mais voilà, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Globalement les gars, c'est une belle, un beau Grand Prix pour les rookies, parce que bon, Antonelli, on l'a compris, c'est quand même ultra solide et ultra fiable.
Il va falloir en parler là quand même.
On va parler de Jack Doohan aussi, hein. Je suis pas sûr que ce soit un bon Grand Prix pour Jack Doohan, hein. C'était un calvaire. Hein.
Oui, c'est celui qui a fait le plus de dépassements, mais... qui a gagné le plus de place.
Et t'as vu le pain qu'il a pris quand même là aussi.
Ouais, mais même c'était via les stands. Ouais, mais via les stands, je crois, en plus, Jack Doohan, le dépassement. Bon, faf.
Il a gagné des places.
Non, mais là, lui aussi.
Non, mais revenons sur Antonelli, Jean-Luc, parce que déjà, bon, il y a une petite stat, c'est quand même qu'il est officiellement. Ouais, alors. Voilà. Le premier, c'est le plus jeune pilote de l'histoire à avoir mené une course. Et le deuxième, le deuxième, je me suis noté.
C'est le plus jeune sur le tour.
Trois Grands Prix dans les points, trois fois, les trois premiers. Il faut remonter à Hamilton en 2007. Ouais.
Il a le meilleur tour en course, c'est le seul à passer sous la minute 31. Hein. 1:39.65, je parle sous le contrôle de Jean-Luc.
À la radio, il était poussé.
Vous parlez très bien, vous parlez d'or.
Non, mais Jean-Luc, il est ultra, ultra régulier, Antonelli, franchement.
J'avoue que, pareil, il s'était pris les pieds dans le tapis à Monza, même chose, c'est difficile, hein, quand t'es un gamin d'à peine 18 ans et que, bah, évidemment, t'es en haut de la feuille des temps au bout de 5 tours, mais le 5e, tu le finis pas. Bon, ok, ça c'est fait, mais après, effectivement, bah, Toto, il était même pas sorti de la voiture, il lui dit, c'est rien, mon petit gars. Donc là, 18 ans, 7 mois, 12 jours, pour être précis, et donc là, il bat qui ? Verstappen, qui lui, effectivement, pour mener un Grand Prix, il était beaucoup plus vieux, hein, il avait 19 ans, 1 mois et 14 jours. Donc bon, sans rigoler, c'est quand même un exploit remarquable. La monoplace est bonne, l'équipe est solide, mais effectivement, peut-être plus convaincant pour moi, les trois Grands Prix, les trois fois dans les points, et on remonte à Hamilton, excusez du peu, en 2007. Je pense qu'effectivement, c'est une pépite, c'est une perle, et puis il n'est pas très loin, il est derrière, pour le moment, il est derrière Russell, mais il n'est pas très loin derrière, et vraiment, c'est son ombre, hein. Il le colle derrière. Quand va-t-il venir à son niveau ou passer devant? Peut-être dans pas très longtemps.
Oui, 45 points pour Russell depuis le début de la saison et 30 points pour Anthony,
ce qui est très bien. Surtout que l'Australie, c'était pas gagné pour les marquer des points, hein, vu d'où il partait. Hein.
Ouais. On est avec Toto Wolff d'ailleurs. Toto, vous vous êtes pas trompé sur le recrutement. Hein.
Ah, on est très content d'Andrea qui, pour l'instant, démontre beaucoup de qualité. Et on va voir sur les deux prochaines courses s'il peut faire de l'ombre à George.
Ah, c'est sympa de l'avoir invité.
Ah, mais Toto, il est là dans tous les. De toute manière, c'est l'invité principal du paddock. On a eu que lui, tu remarques. Il n'y a que lui qui est venu parler chez nous.
Et Toto, je peux te poser une question? Quand c'est que tu l'adoptes véritablement? Quand c'est qu'il va s'appeler Antonelli Wolff?
Faut que j'en parle à Suzy, voir si elle est d'accord. Bon.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que. Je vais pas dire qu'on émettait des doutes, mais. Et quand tu as Simon Alley, tu es un pilote, tu fais le choix de responsabiliser Russell en numéro 1, que derrière tu vois un si jeune rookie, bon, tu savais que il avait un énorme potentiel, mais tu as toujours le risque de te dire, déjà tu le lances très tôt, et tu as le risque de te planter. Et là, au bout de 3 courses, ça y est, il a mis tout le monde d'accord. Tu sais que c'est déjà un bon choix, quoi.
Ouais, c'est surtout la construction d'un champion du monde que tu es en train de faire, hein, chez Mercedes. Hein. Je me rappelle de la cool room d'Hydro avec Gwen Lagru qui expliquait justement que prendre Antonelli maintenant, c'est peut-être prendre un risque, mais c'est un travail de fond sur 4-5 années pour en faire de lui un champion du monde.
Ah et... bon, ils font pas comme Red Bull.
Non, mais justement, et c'est là aussi la construction, et même, ça fait même référence notamment à ce qui s'est passé avec Liam Lawson. Antonelli dit c'est très important d'avoir en fait une académie, une écurie derrière nous, même quand on fait des erreurs. Et que je pense qu'Antonelli est surtout très heureux d'avoir choisi non pas Red Bull quand il était petit, mais Mercedes, parce que là aujourd'hui, il est dans un projet où peu importe ce qui lui arrive, même s'il a Verstappen demain en tant que coéquipier, Mercedes aura toujours confiance en Antonelli, surtout sur le début de saison, ses débuts en Formule 1, qui sont très bons, qui sont, j'ai même envie de dire, assez exceptionnels, parce que la manière dont il arrive à tenir, pas essentiellement la voiture, moi c'est une question de pneumatique. Comprendre des pneumatiques aussi rapidement, quand t'es jeune, et surtout il faut limiter ingénieur pour pouvoir comprendre et faire fonctionner, mettre en température dans une fenêtre aussi infime les pneumatiques, Antonelli y arrive déjà. Alors on dirait, oui, il a 15 000 km en essai privé. Ouais, mais la Formule 1 en tant que telle de l'ère moderne est tellement complexe chaque année que pouvoir réussir à s'acclimater, à faire fonctionner tout ça et performer derrière, ça relève de l'exploit déjà, surtout à l'âge de 18 ans.
Alors même si chez Red Bull, c'était peut-être le même calcul. En se mettant Lawson, on met un jeune pilote, on change de réglementation l'année prochaine, comme ça il va connaître les process, nos équipes. Bon, chez Red Bull, c'est évidemment un contexte tout à fait différent, et puis tu n'as peut-être pas non plus cette même filière où ça peut vraiment énormément rouler chez Racing Bull savant. Et là, chez Mercedes, ils ont bien senti le truc, et voilà, Antonelli, on sait que ça sera aussi pour la prochaine réglementation.
C'est surtout qu'à l'heure actuelle, chez Mercedes, il y a pas d'autres pilotes aussi à l'heure actuelle qui sont à l'horizon.
Valtteri, quoi.
Ouais, d'autres pilotes à l'horizon qui peuvent monter de l'académie pour aller en Formule 1. Il y a Vesti qui est juste un troisième pilote et un pilote de réserve, mais qui n'a pas vocation à être en Formule 1 chez Mercedes notamment.
Un petit mot sur Oli Berman quand même, qui marque, qui a déjà marqué 5 points depuis le début de la saison, qui a fait un super week-end. Jean-Luc, Esteban Ocon qui disait en interview, alors en plus c'est terrible parce que t'as la comparaison entre la performance d'Ocon et la performance de Berman. Ocon qui dit on était 4-5 dixièmes plus lent que Berman, c'est cool parce que l'écurie a trouvé des solutions, mais voilà.
Alors ils ont ajusté les planchers, c'était différent selon les deux pilotes, visiblement.
C'est ça, ils avaient des réglages différents.
Apparemment, il y a un nouveau plancher, ouais, absolument. Ouais.
Mais Berman lui aussi, il répond présent, hein, Jean-Luc. Hein.
Ah ben complètement. Encore une fois, elle était en course, hein, parce que c'est effectivement à l'issue et de toute la mise au point. Eh bien, Berman fait 1.32 et 6 millième. Et finalement, Esteban, au 48e tour, fait 1.31.967. Donc, il trouve de la perf, mais à la fin, Esteban. Alors, c'est vrai que c'est une belle référence, on le sait. Il est solide, Esteban, toujours, lui aussi. Il est très rapide. Tous ses équipiers, y compris Perez, l'ont dit. Ouais. Donc, le fait de voir Berman... Puis alors, attendez... On est dans les stats, alors on y va. Encore une fois, j'aime pas en asséner trop, mais celle-là, elle compte. Il a été 4 fois dans les points en 6 Grands Prix. Et ouais.
C'est rarissime.
Donc ça veut dire que non seulement il est rapide, mais il est solide et il sait se dépatouiller, il n'y a pas d'autre mot, avec une monoplace qui est vraiment très difficile à piloter. Donc je pense que lui aussi, il est excellent.
Alors, sachant que je regarde, je fais attention, Esteban était en médium à ce moment-là, même si on a vu que les durs... avaient plus de rythme que les médiums parce que les pilotes avaient peur de taper tellement dans la gomme qu'ils n'utilisaient pas, qu'ils n'allaient pas chercher un peu ce que les médiums pouvaient avoir en perf.
Bah, là aussi, on a mis des stratégies différentes et on a bien joué, on a essayé quelque chose. Hein. On a mis effectivement les durs à Esteban au début et après on l'a mis en médium et l'inverse évidemment chez Berman. Stratégie normale, médium dur.
Et d'ailleurs, je renvoie les 31 tours sur médium d'Antonelli, on n'en a pas parlé parce que là je me suis mis le petit graphe. Il tient quand même les médiums sur 31 tours, quoi. C'est bluffant.
Un petit mot sur Ferrari quand même, parce que c'est vrai que j'ai envie de dire que maintenant c'est...
Faire un demi-mot.
Il est dur.
Charles Leclerc qui termine à 16 secondes.
Meilleure place de Max pour Ferrari cette saison. Verstappen.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Meilleur résultat de Ferrari cette saison. On va écouter Leclerc au micro de Canal.
Ouais, bon, je suis jamais satisfait à part quand je gagne vraiment. Et là, en plus, on n'est même pas sur le podium, donc c'est vrai que ça fait... un petit peu mal parce que même quand on fait tout parfaitement bien de faire quatrième, ça fait toujours un petit peu mal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la position dans laquelle on est aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, il faut absolument qu'on se contente juste de maximiser le résultat, ce qu'on a fait ce week-end. Et donc pour ça, encore une fois, il faut qu'on soit satisfait. Mais bon, j'espère juste qu'on va réussir à mettre plus de perfos dans la voiture pour aller chercher les gars devant.
Maximiser, beau jeu de mots.
Jean-Luc, tu le sens là, tu le sens dans le discours de Charles Leclerc, parce que autant il y a eu des erreurs sur les deux premières courses, que ce soit niveau stratégie, peut-être en termes de perf. Là, Charles, quand même, il a des mots forts. Il dit quand t'as tout bien fait et que t'es quatrième, ça fait mal. Hein.
Bah écoute, c'est clair, l'addition c'est 3 à 4 dixièmes. Ça a été le cas en qualif, ça a été le cas en course, on l'évoquait tout à l'heure. Et logiquement, il termine à 16 secondes, 53 tours, le calcul est vite fait. Il prend à peu près 3 dixièmes par tour. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Là, on parle toujours de plafond de verre. Bah oui, là, il y est, là, il ne peut pas faire mieux. Effectivement, il ne commet pas d'erreur, il sort tout ce qu'il a. Et on sait quand même qu'en qualif, il est extrêmement rapide. Hein. Charles, il ne faut jamais l'oublier parce que quand même, là, il a totalisé 26 pôles. C'est quand même pas rien. Si tu regardes dans le panel des pilotes au départ, c'est beaucoup par rapport à son nombre de victoires. Et là, il peut rien faire. Donc là, il va falloir trouver quelque chose. Et effectivement, moi, je dois avouer, assez inquiet aussi. Parce que pour le moment, encore une fois, ils n'y sont pas, hein, les pilotes. Et j'espère qu'on ne va pas, là non plus, assister à un drame à l'italienne, tôt ou tard, dans l'écurie. Fred tient bien la barre. Mais là, il va falloir trouver quelque chose. Hein, parce que ça va finir par couiner à plusieurs niveaux.
Ouais, tu sens qu'ils sont marqués, hein, Alex, là.
Ils sont marqués parce que déjà d'une, le début de saison est cauchemardesque et assez inacceptable, notamment la double disqualification pour deux raisons différentes en Chine. Et en fait, au Japon, ça, pourquoi je disais tout à l'heure on va faire un demi-mot sur Ferrari, parce qu'il n'y avait rien de plus à attendre de Ferrari au Japon, parce que les améliorations pour vraiment changer peut-être drastiquement, du moins c'est ce qui est espéré, les performances de la SF25, c'est à partir de Bahreïn, donc au prochain Grand Prix, notamment un nouveau plancher qui pourrait potentiellement arriver. On sentait que Charles Leclerc attendait avec impatience le Grand Prix de Bahreïn, au point où je presque envie de dire, le premier Grand Prix de la saison pour Ferrari, c'est Bahreïn, hein. Les trois premiers, là, par rapport à tout ce qui s'est passé, l'accumulation d'erreurs, l'accumulation aussi de non-compréhension de plusieurs actions qui ont fait de moins en moins comprendre, j'ai envie de dire, la SC25, qui, on rappelle, a changé à 99% par rapport à la voiture de l'an dernier. Ben, on arrive à une situation où Ferrari, le premier Grand Prix, ça va être à Bahreïn. Et voir Ferrari réussir, d'ailleurs, avec Charles Leclerc, faire enfin, sur le début de saison, d'ailleurs, une bonne prestation, parce que ça a été compliqué sur les deux premiers Grands Prix. Là, Leclerc maximise, et je pense que même pour Leclerc, le moral va aller un petit peu mieux après ce Grand Prix de Bahreïn. Point quand même compliqué, c'est Hamilton. Là, Hamilton sur ce Grand Prix.
Tiens, tu veux qu'on l'écoute? Attends, on va l'écouter. Allez, vite fait. On se l'a mis de côté, Lewis Hamilton.
Didn't have the pace today, and
on n'avait pas le rythme aujourd'hui.
But yeah, it's pretty lonely race in general. So, but I love driving.
Ouais, c'était une course assez solitaire. Moi, j'adore rouler sur ce circuit, mais c'est pas le meilleur résultat. Les qualifications étaient la clé.
But apart from the sprint, it's your best result with Ferrari this year, so it's good.
La course.
Yeah.
One race. Si on exclut le sprint, c'est votre meilleur perf avec Ferrari. Ouais, c'est vrai, on avance. Mais bon, on va prendre la course après.
7e son meilleur. Ouais, non.
Alors il y a une disqualification, mais Albon est devant Hamilton au classement des champions des pilotes. Alors il y a la disqualification en Chine, mais moi je trouve que Williams, je les suis, ils sont derrière, mais Albon il fait quand même un très bon début de saison. Un peu plus dur pour Carlos Sainz qui a pris qu'un seul point. Par contre sur Ferrari, c'était popcorn entre Ricardo Adami et Lewis Hamilton. Oui. Quand il lui dit, je perds. Hamilton demande à la radio, je perds du temps où? Ricardo Adami, alors virage 9, 10, 11. Et là Hamilton répond, oui mais combien, dis-moi combien je perds par virage.
Ouais, mais c'est fou d'ailleurs qu'encore au troisième Grand Prix, t'as encore des erreurs aussi banales.
Ouais, mais je pense dommage. Que on en a parlé nous beaucoup dans le podcast.
La philosophie,
t'as quand même cette différence de culture, voilà, la philosophie, une culture très latine avec la rigueur anglo-saxonne d'Hamilton. Moi, ça me choque pas qu'au bout de trois grands prix, ils soient quand même encore un peu en train de tâtonner dans leur relation, sachant que c'est des faits de course qui se présentent. En fait, en Formule 1, t'as tellement pas d'entraînement que tu t'entraînes pendant les courses, quoi.
Oui, non, c'est
donc, tu vois, lui donner le best-of des radios entre Peter Bonington et Lewis Hamilton. Tu t'écoutes en podcast.
Sinon, à l'inverse, le best-of des radios entre Charles Leclerc et son ancien ingénieur, là, avec le stay out, stay out.
Ou
Albon aussi, avec son ingénieur, c'était bien.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'Albon, il était un peu offensif là, pendant la course là, avec son ingé. Jean-Luc, un petit mot de Tsunoda. Il faut qu'on en parle de Yuki Tsunoda. On le disait, mine de rien, il est propulsé dans la Red Bull. Pas facile, chez lui, à domicile, grosse pression populaire. Bon, il a pas été. Il a fait son job, en fait, il a fait son taf, Tsunoda.
Ben, je crois
qu'il a 12e, on le rappelle.
Oui, avec une pression considérable, hein, on l'a dit et redit évidemment, un Japonais au sein d'une équipe de pointe, ça n'était jamais arrivé sur son sol. Donc effectivement, on a en mémoire tout ce qu'on sait, hein, puisque la troisième place d'Aguri Suzuki, Takuma Sato, Kamui Kobayashi, pourquoi pas. Bon,
Kobayashi,
Les qualifs, enfin tu vois, au championnat c'est Sato, j'ai recherché un petit, j'ai bossé un peu quand même, Sato 8e en 2004, il y a eu 27 pilotes japonais, bref, il se retrouve enfin dans l'équipe de pointe dont il rêvait, il avait râlé, il avait été frustré, il y est, mais au Japon, chez lui, avec une monoplace extrêmement difficile, dans laquelle il n'est pas monté évidemment, extrêmement difficile à évaluer, à faire évoluer et tout, donc il donne tout ce qu'il a, il ne commet pas d'erreur, c'est le plus important, puis je rappelle quand même, la première séance d'essai libre, il est super, hein, il est 6e et Verstappen 5e. Après, on travaille, je pense, dans d'autres directions. Et puis, en qualif, en Q2, c'est vrai qu'il se rate. C'est un peu la faille. Il ne va pas en Q3, donc évidemment, après, en course, c'est pareil. Alors, en course, il fait le boulot. Hein, il part finalement 14e, il termine 12. Bon, c'est une performance de l'ombre. Mais notre ami, le docteur Helmut, n'a pas voulu le massacrer en disant là, lui, ils vont llui laisser du temps, c'est évident, et c'est ça dont il a besoin. Je le sauve de l'eau.
Il s'est plaint. Il a noté qu'entre le comportement sur simulateur et la réalité de cette Red Bull, il y avait un monde. Alors évidemment, entre bah,
ouais. Ouais, mais ça, par contre, je trouve que c'est inquiétant parce que sur les autres simulateurs, notamment, les pilotes ne déplorent pas ça d'une manière assez active et d'une manière aussi forte. Donc ça veut dire aussi que du côté de chez Red Bull, la problématique vient aussi de la simulation.
Sur le simulateur, c'est une McLaren et puis en sauveur.
Un peu ça. Quoi. Et on se demande s'il n'y a pas un petit coup de pouce de l'ingénieur sur le simulateur. T'es le meilleur, Coco, t'es le meilleur.
Il fait fois 1,5, tu sais.
Visiblement, Milton Keynes, c'est Einstein, hein, semble-t-il. Mais bon.
Comment ça, j'ai roulé en 1,25 à Suzuka.
On y croit à la réussite de Tsunoda avec Red Bull par rapport à ce que Lawson a pu proposer et tout ça après cette course. Alors, bien évidemment, première course, contexte, voilà. Mais avec les éléments qu'on
après,
a là,
ouais, il va être dans les points. Il va être dans les points.
Oui, oui, il va être régulièrement dans les points, mais surtout ne pas oublier qu'au Japon, dans la course, la problématique, c'est les qualifications. Parce que je pense que voilà, s'il avait réussi ses qualifications et qu'il démarrait, allez, on va dire, dans le top 10, la course aurait été nettement différente. Hein.
Et ben voilà, ouais, l'objectif, c'est être en Q3, ouais, donc dans le top 10, et il y restera. Hein. Ouais. Alors après, ouais,
si
où va-t-il
entre P6 et P10, ouais. Voilà.
Ouais. Voilà, voilà, c'est sa place, celle qui vise en tout cas.
Est-ce qu'il sera déjà une amélioration?
J'ai une petite pensée pour Sergio Pérez qui doit absolument bien rigoler. Bah, je pense à lui tous les jours, je me dis, ah lui.
Ah bah oui.
Lui, il se tape des barres là-bas, hein, Mexique.
Bah lui, il est bourré à la tequila tous les jours. Hein, là, je peux dire.
Et puis il a raison parce qu'il doit avoir les moyens de s'en payer 2-3 des tequila quand même, Sergio.
Les frais de licenciement, les 20 millions de dollars là.
Là, je pense que le petit chèque qu'il a touché là, je. Voilà. Et de la bonne tequila. Puis je voulais terminer quand même ce podcast, ce débrief, les gars, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé depuis le début de la saison. C'est nos amis de chez Alpine, seule écurie à ne pas avoir
Stone,
marqué de,
Stone,
de
Alpine. Il faut le prononcer à l'anglaise, Alpine.
Alpine. Je vous laisse maître de vos propos, messieurs. Moi, je suis l'encorman de ce podcast. Je suis neutre. Je suis neutre. Zéro point marqué par Alpine, Pierre Gasly qui termine 13e, ouais, qui dit qu'il a fait
positif,
un manque de vitesse. Ouais, plutôt positif, mais on avait quand même des attentes différentes en début de saison, pour le coup.
Par la faute d'Alpine, hein. Par la faute d'Alpine, avec Pierre Gasly notamment, qui a sorti « Ah, on le sent mieux, on va mieux démarrer la saison », et ainsi de suite. Ouais, mais pour l'instant, 3e Grand Prix, c'est la dernière écurie de la grille, même malgré des disqualifications en Chine, justement, de Ferrari. Hein.
Après, est-ce que Pierre ne prend pas cette position parce que c'est le pilote numéro 1 qui doit engager
une forme
de dynamique,
c'est vrai.
Garder tout le monde motivé, etc. Je pense que
il prend le rôle d'Esteban de l'an dernier. Il prend le rôle d'Esteban.
Même si Esteban pouvait être plus cash... voilà sur les points négatifs.
Il peut pas être dépressif après 3 grands prix ou alors ce serait une cata quoi. Après 3 grands prix
sur
24
des fois, avec Ferrari, mais c'est pas le même caractère évidemment.
Non, mais contexte, c'est inquiétant. Nico, c'est ta question. C'est très inquiétant. Et comme vous l'avez dit, seule écurie à ne pas avoir marqué de points. Et puis là, à la régulière, je vois pas comment ils vont en marquer.
Parce qu'en fait, c'est surtout que au-delà même des points, c'est surtout que toutes les écuries, à l'exception d'Alpine, se sont vraiment beaucoup améliorées. Sauber, qui était une écurie de F3 l'an dernier, avec l'impulsion de sa direction technique, notamment de James Kay, a apporté beaucoup d'améliorations et une refonte notamment de la voiture, ce qui leur permet d'être aujourd'hui parfois contender pour avoir des opportunités pour aller prendre des points. En Australie, ils ont pris des points. Bortoleto a été très bon, notamment en séance de qualification. Hülkenberg aussi, les deux pilotes, il y a un bon tandem. Quand on regarde du côté de chez Williams, on a 3 courses consécutives pour Albon dans les points. Donc en fait, toutes les écuries ont élevé leur niveau de jeu, sauf Alpine qui, au-delà même peut-être de la performance de la voiture, c'est aussi l'opportunisme qui n'est pas présent du côté de chez Alpine. Et je pense aussi que la toxicité qu'il y a, notamment par rapport au deuxième baquet, ça joue aussi sur les performances de Jack Doohan, qui a peut-être d'ailleurs vécu son dernier Grand Prix avec Alpine sur ce Grand Prix de... on était au Japon, sur ce Grand Prix du Japon après cet accident.
Avant-dernier.
On a vu Colapinto.
Surtout que moi, dans ma tête, je pensais que c'était juste Williams qui avait loué le circuit de Monza pour faire tester justement Victor Martins et Luke Browning. Puis en fait, ils ont fait tester également Alpine avec Franco Colapinto et Paul Aron. Il y a beaucoup de signes qui montrent que là, on est en train de préparer Franco Colapinto, de le faire monter en régime pour prendre le baquet incessamment sous peu, j'ai envie de dire.
Entre les deux prochains.
Après, sur Alpine, on n'oublie pas quand même qu'il y a Q3 en Australie, Q2 en Chine.
Ah, mais les points.
Donc, y a des non, mais je veux dire, t'as la course évidemment, mais voilà, je pense qu'ils vont quand même prendre quelques
points.
T'es
mieux que l'année dernière.
Mieux que l'année dernière en termes de performance, mais les autres aussi ont beaucoup élevés. Et pour ça qu'une écurie qui est soi-disant constructeur en Formule 1 ne peut pas prétendre. Alors après, il y a aussi Pierre Gasly, il a une déclaration qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'il a dit que. C'est vrai que Alpine est la seule écurie à avoir un moteur Renault et que le moteur Renault, semblerait-il, selon Pierre Gasly, fait vraiment défaut par rapport aux autres écuries.
Q2 ce week-end, il n'était pas resté en Q1 en Chine.
Vive la France.
Ouais. Non, mais c'est clair que là.
Et il y a le moral, merci messieurs.
Et le crash pour oui. aujourd'hui, le CAC 40 du coup.
On va dire que c'est un bilan inquiétant. Voilà.
Ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, prochaine fois, promis, je termine le podcast sur une note un petit peu plus positive. Voilà,
bah, Fernando Alonso qui a terminé enfin une course.
Oui, voilà.
Pas dans les points, pas dans les points.
Juste pour terminer, on parlait d'Alpine. On a juste histoire un peu folle. Ryu Arakawa là aujourd'hui. Là.
Oui.
Ryu Arakawa, oui. Il a fait deux matchs chez Alpine. Allez hop! Merci, je me cache chez As. Bonne soirée.
Voilà, ouais. Il va chez As. Ça, c'est incroyable.
C'est un signe encourageant.
C'est beau. Et c'est vrai que l'ami Fernando a terminé une course. Le pauvre, lui aussi, c'est dur. Hein. Enfin bref. les gars, merci beaucoup. Débrief complet de ce Grand Prix du Japon. À retrouver sur toutes les plateformes, à partager, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur les réseaux sociaux, sous les partages des podcasts sur les réseaux sociaux RMC Sport. Le prochain podcast, ce jeudi, hein, warm-up du Grand Prix de Bahreïn. Parce que là, on enchaîne. La Bahreïn, Arabie Saoudite, on va se régaler de la Formule 1. Deux fois par semaine sur RMC. À jeudi, bye bye.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Le paddock RMC.